La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission La parole des contes. Et les missions précédentes, nous avions déjà exploré le rêve dans les contes, la place du rêveur. Et là, je nous propose une aventure dans les contes qui parlent du rêve, du rêveur, du sommeil même. Comment on peut perdre le sommeil, le chercher, le retrouver. Et à tous les coins de l'univers, en passant donc par le Maghreb et en allant jusque en Russie, chez les Tziganes, chez les Khezmer et chez les Juifs, et en passant par la Gascogne. Donc vous êtes prêts, et rappelez-vous, là, quand vous avez perdu le sommeil, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, nous sommes au Maghreb et un inspecteur municipal en train de faire sa tournée de nuit. Il rencontre sur son chemin, à une heure indue, Nasreddin Hoxha, qui marchait d'un air distrait.
Hey, « Hé, que cherches-tu à cette heure-ci dans la rue ?»
lui demanda-t-il. Et le Hoxha de répondre, « J'ai perdu mon sommeil et je le cherche. » Suivons notre aventure dans la ville d'Ispahan, en Perse, où vécut autrefois un paysan très misérable. Il n'avait pour tout bien qu'une humble maison basse, couleur de terre ensoleillée, et devant cette maison était un champ de cailloux. Au bout de ce champ de cailloux, une source et un figuier. C'était là tout son bien. Cet homme qui travaillait beaucoup pour peu de récolte avait coutume, quand le cadran solaire, à demi effacé sur sa façade, indiquait l'heure de midi, de faire la sieste à l'ombre de son figuier. Or un jour, comme il s'était endormi, la nuque contre le tronc de son arbre, un beau rêve lui vint. Il se vit cheminant dans une cité populeuse, vaste, magnifique. Le long de la ruelle où il marchait nonchalamment étaient des boutiques foisonnantes de fruits et d'épices, de cuivre et de tissus multicolores. Au loin, dans le ciel bleu, se dressaient des minarets, des dômes, des palais couleur d'or. Notre homme, contemplant avec ravissement ses richesses, ses beautés et les visages avenants de la foule alentour, parvint bientôt, dans la lumière et l'aisance de ce songe béni, au bord d'un fleuve que traversait un pont de pierre. Vers ce pont, il s'avança et soudain fit halte, émerveillé, au pied de la première borne. Là, était dans un grand coffre ouvert un prodigieux trésor de pièces d'or et de pierres précieuses. Il entendit alors une voix qui lui dit «
Tu es ici, dans la grande cité du Caire, en Égypte. Ces biens, l'ami, te sont promis. »
À peine ces paroles allumées dans son esprit, il s'éveilla sous son figuier à Ispahan. il pensa aussitôt qu'elle l'aimait, désirait l'enrichir. « En vérité, se dit-il, ce rêve ne peut être que le fruit de son indulgente bonté. » Il boucla donc son baluchon, cacha la clé de sa masure entre deux pierres du mur et s'en alla sur l'heure en terre d'Égypte chercher le trésor promis. Le voyage fut long et périlleux, mais par grâce naturelle, le bonhomme avait le pied solide et la santé ferme. Il échappa aux brigands, aux bêtes sauvages, aux pièges de la route. Au bout de trois rudes semaines, il parvint enfin à la grande cité du Caire. Il trouva cette ville exactement comme il l'avait vue dans son rêve. Les mêmes ruelles vinrent sous ses pas, il chemina parmi la même foule nonchalante, le long des mêmes boutiques débordantes de tous les biens du monde. Il se laissa guider par les mêmes minarets, au loin, dans le ciel limpide. Il parvint ainsi au bord du même fleuve que traversait le même pont de pierre. À l'entrée du pont était la même borne. Il courut vers elle, les mains déjà tendues à la fortune. Mais presque aussitôt se prit la tête en gémissement. Là n'était qu'un mendiant qui lui tendit la main en quête d'un croûteau de pain. Le trésor, pas la moindre trace. Alors notre coureur de songe, à bout de force et de ressources, désespéra. « À quoi bon vivre désormais ? » se dit-il. « Plus rien de souhaitable ne peut m'advenir en ce monde. » Le visage baigné de larmes, il enjamba le parapet, décidé à se jeter dans le fleuve. Le mendiant le retint par le bout du pied, le ramena sur le pavé du pont, le prit aux épaules et lui dit « Mais pourquoi veux-tu mourir, pauvre fou, par un si beau temps ?» L'autre, en sanglotant, lui raconta tout, son rêve, son espoir de trouver un trésor, son long voyage. Alors le mendiant se prit à rire à grands éclats, se frappa le front de la paume et le désignant à l'entour comme un bouffon faramineux. « Ah, voilà bien le plus parfait idiot de la terre ! Quelle folie d'avoir entrepris un voyage aussi dangereux sur la foi d'un rêve ! Je me croyais d'esprit malingre, mais auprès de toi, bonhomme, je me sens sage comme un saint derviche. Moi qui te parle, toutes les nuits, depuis des années, je rêve que je me trouve dans une ville inconnue. Son nom est, je crois, Ispahan. Et dans cette ville est une petite maison basse, couleur de terre ensoleillée, à la façade pauvrement ornée d'un cadran solaire à demi effacé. Devant cette maison est un champ de cailloux. Au bout de ce champ de cailloux, une source et un figuier. Toutes les nuits dans mon rêve, je creuse un trou profond au pied de ce figuier. Et je découvre un coffre rempli à ras-bord de pièces d'or et de pierres précieuses. Ai-je jamais songé à courir vers ce mirage ? Mais non ! Je suis, moi, un homme raisonnable. Je suis resté à mendier tranquillement ma pitance sur ce pont fort passant. Songe, mensonge, dit le proverbe, où Dieu t'a mis. Tu aurais dû demeurer. Va, médite, et sois à l'avenir moins naïf. Tu vivras mieux. » Le paysan, à la description faite, reconnut sa maison et son figuier. Le visage, tout à coup illuminé, il embrassa le mendiant, éberlué par cet accès subit d'enthousiasme, et retourna à Ispahan, courant, gambadant comme un homme doué de joie inépuisable. Arrivé chez lui, il ne prit même pas le temps d'ouvrir sa porte. Il empoigna une pioche, creusa un grand trou au pied de son figuier et découvrit au fond de son trou, devinez quoi, chère auditrice, un immense trésor. Alors, se jetant la face contre terre, il hurla, Allah est grand et je suis ton enfant. Donc, chers auditeurs, voici un autre conte, une autre histoire qui reprend exactement le même thème que le conte précédent. Mais tout à l'heure, nous étions dans l'univers du Maghreb, à Ispahan. Et maintenant, nous allons dans l'univers des Juifs à Cracovie et Prague. Vous êtes prêts pour le grand voyage ? Donc, quelque part à Cracovie, alors qu'il y avait encore des Juifs à Cracovie, et que ces Juifs n'avaient pas peur de rêver la nuit, il était une fois un homme nommé Ezik, fils de Yekel. Pieux et pauvre et naïf de surcroît, désarmé devant la vie, il n'arrêtait pas de s'inquiéter. Il y avait là le loyer à payer, le boucher, le précepteur et les filles à vêtir, à marier. Et le temps pressait. Ezik, pauvre Ezik, que pouvait-il faire? Que pouvait-il faire d'autre que s'inquiéter? Il priait, jour après jour, à chaque office et même entre les offices, à la synagogue et dans la rue et chez lui. Il implorait l'Éternel de se souvenir de son serviteur endetté et tourmenté qui n'en pouvait plus. En vain, Dieu semblait ne pas écouter. N'empêche que notre Ezik continuait de lui adresser ses requêtes. Il n'en était pas moins pieux ni moins pauvre. Puis, une nuit, il eut un rêve bizarre. Il se voyait transporté dans un royaume lointain, dans la capitale, sous un pont, à l'ombre d'un immense palais, et une voix lui dit « Voilà Prague, voilà la Vladva, voilà le palais des rois, regarde bien, regarde, regarde sous le pont à l'endroit où tes pieds sont posés. » Il y a un trésor. Il t'attend. Il est à toi. Tes problèmes sont résolus. Sont résolus. Au matin, Ezik se moqua de lui-même. Ah, les rêves, c'est bien beau. Ça ne coûte rien. Mais ça ne sert à rien non plus. Il n'y pensa plus. Mais le soir, à peine eut-il fermé les yeux, que la même vision s'emparait de son esprit, la capitale, le palais, le pont, et la même voix qui demandait « Tu veux être riche ou préfères-tu l'inquiétude ?»« Ah, quelle histoire !» pensa Ezik. « Quelle idée d'aller à Prague ! Il n'avait nulle envie d'y aller, il n'y connaissait personne. Et puis, c'est loin, c'est cher !» Il n'avait pas d'argent. S'il en avait, il saurait quoi en faire. Le loyer, le boucher, le précepteur. Entre les rêves et les prières, Ezik choisira les prières. Il y en a même une pour conjurer les rêves. Et ce récit ne s'arrête pas là. Le soir suivant, pour la troisième fois, Ezik entendit la voix. « Alors, tu n'es pas encore parti ?» Irrité, plus qu'intrigué, et pour en finir avec ses bêtises, il décida d'obéir ou de faire semblant. Il se mit en route, à pied. Il arriva à Prague au bout de quelques semaines, transi de fatigue, de faim et d'insomnie. Il reconnut le fleuve, le pont, le palais. Il poussa un petit cri. « Je rêve ! Ça recommence ?» Non, il ne rêvait pas. Curieux tout de même, se dit-il. Un certain endroit sous le pont lui était particulièrement familier. Oh, et si j'essayais, qu'ai-je à perdre? Il faudrait creuser pour voir. Mais attention, pas si vite. Le pont était gardé. Il ne fallait pas éveiller le soupçon des soldats. Indécis, Ezik rôda autour de l'endroit et finit par se faire remarquer et arrêter. Amené devant le capitaine des gardes et accusé d'espionnage, il ne trouva rien de mieux pour se défendre que de tout avouer. Les rêves, les soucis, la longue marche depuis Cracovie, la mémoire et la voix de cette mémoire. Il était sûr, Ezik, que l'officier incrédule le traiterait de menteur, il ferait fusiller. Quelle ne fut pas sa surprise de voir le méchant capitaine s'esclaffer en riant aux larmes. « Non, c'est pour ça que t'es venu de si loin. Ah, vous, les Juifs, vous êtes plus stupides que je ne pensais. Tiens, moi, tel que tu me vois, si j'étais aussi bête que toi, si moi aussi j'écoutais les voix, sais-tu où je serais en ce moment même? À Cracovie, oui, comme tu l'entends. Figure-toi que depuis des semaines et des semaines, il y a cette voix la nuit qui me dit « Un trésor t'attend chez un juif de Cracovie, nommé Ezik, fils de Yekel. Oui, sous le four !» Or, la moitié des Juifs là-bas s'appellent Ezik et l'autre moitié Yekel. Et tous sont des fours. Tu me vois, moi, allant de maison en maison, démolissant tous les fours à la recherche d'un trésor inexistant. Ezik ne fut pas puni. Et comme tu dois t'en douter, cher auditeur, il se hâta de rentrer chez lui. Il déplaça le four. Et trouva quoi? Et le trésor promis. Il put payer ses dettes, marier ses filles, et même en guise de reconnaissance, il fit construire une synagogue qui porte son nom, Ezik, fils de Yekel, un juif pauvre et pieux qui demeura pieux même quand il ne fut plus pauvre. Et là, nous retournons dans nos campagnes françaises avec Henri Pourrat, le trésor des contes, avec une petite blague en somme. Écoutez donc. Il y avait une fois une drôlette dans les 15 ans, venant à 16. Elle aurait bien aimé s'acheter un petit bout de ruban, quelquefois pour la fête de Dieu ou pour la fête du pays. Elle avait pour parrain un certain vieil oncle
qui n'avait pas d'enfant et qui avait force écu. Mais le parrain tenait serré les cordons de sa bourse. Ah, c'était pas lui qu'aurait donné des saucisses à son chien, en lui demandant s'il les aimait.
Un matin, elle vient le trouver, un peu fringante, souriante, hésitante, mais l'œil déjà brillant.
« Oh, mon parrain, si tu savais ce que j'ai songé la nuit passée, tu veux que je te raconte ?»«
Ah, quel beau songe !»«
Quoi, mamie ?
Que t'étais dans le paradis avec les anges ?»
Et tu leur faisais mettre une échelle jusqu'en terre pour faire monter le tonton parrain ?
Oh non, mon parrain, oh, c'était plus beau.
Je veux dire que le songe, il semblait tout arrivé.
Dis, j'ai rêvé que tu me donnais 3 louis d'or.
C'est vrai ? 3 louis d'or ? L'argent s'est fait si cher qu'aujourd'hui ce serait quelque chose.
Alors, pourtant, si je te les ai mises dans la main, ces 3 grosses pièces,
je me reconnais bien là. Eh ben t'es, oh pauvre mamie, puisque je suis ton parrain et que je te les ai donnés ces 3 louis d'or, eh ben garde-les bien.
Un jour, 2 hommes voyageaient ensemble. Comme s'ils s'étaient arrêtés en chemin pour laisser tomber la chaleur, l'un d'eux s'endormit à l'ombre. Tandis que l'homme dormait, l'autre vit une mouche sortir de la bouche de son compagnon et entrer dans le squelette d'une tête de cheval qui se trouvait par là. Et cette mouche tourna dans cette tête de cheval dont elle visita tous les recoins. Puis elle revint dans la bouche du dormeur et celui-ci dit à son réveil
« Oh, si tu savais le beau rêve que je viens de faire ! J'ai rêvé que j'étais dans un château où il y avait une infinité de chambres, toutes plus belles les unes que les autres. Jamais tu ne voudrais le croire. Et sous ce château, était enterré un grand trésor. »
L'autre lui dit alors, « Veux-tu que je te dise où tu es allé ? Tu es allé dans cette tête de cheval. J'ai vu ton âme sortir de ta bouche sous la forme d'une mouche et se promener dans tous les recoins de ses ossements, puis elle est retournée dans ta bouche. » Alors ces 2 hommes soulevèrent cette tête et creusèrent dessous. Et vous savez ce qu'ils ont découvert ?
Eh bien, ils ont découvert un grand trésor !
Thank you.
embarquer au Japon. Un jeune étudiant nommé Makibito eut une nuit un rêve si étrange qu'il désira à peine éveillé en connaître le sens. Il se rendit donc chez une vieille nonne réputée pour son habileté à interpréter les songes et à voix basse le lui confia. Elle le rassura et le déçut. Ce rêve, bien que peuplé de bêtes fabuleuses et de paroles solennelles, ne présageait rien de mauvais, mais ne lui promettait aucunement ce qu'il désirait. Selon l'infaillible jugement de la sainte vieillarde, il n'était que vapeur négligeable. Or, une fois ce verdict prononcé, comme il parlait aimablement des mystères célestes et des beautés nocturnes qui peuplent la vie, ils entendirent soudain dans l'antichambre de puissants bruits de voix et de bottes fringantes. Une discrète servante vint annoncer à la vieille nonne la visite du fils du gouverneur de la ville, jeune homme fort riche et réputé pour sa turbulente générosité. Makibito s'en trouva contrarié. Il avait grande envie de poursuivre sa conversation avec cette femme dont il admirait la sagesse et la sagacité. Elle le sentit, lui sourit avec indulgence, le prit par le bras et lui dit en le conduisant vers une porte basse « Retire-toi dans cette chambre, le temps que je reçoive ce fils de noble que je ne peux pas faire attendre. Quand il sera parti, nous pourrons parler à nouveau. » À peine s'était-il dissimulé derrière le battant qu'il entendit sonner la voix forte de l'aristocrate « Sainte nonne !» J'ai fait la nuit dernière un rêve sur lequel j'aimerais avoir tes lumières. Makibito, dans la pénombre de la chambre où il était caché, retint son souffle et écouta. Il ne perdit pas un mot du récit que fit le jeune homme, ni du commentaire de la nonne qui parla ainsi. Ce rêve est le plus vaste, le plus faste qu'il m'ait jamais été donné d'entendre. Surtout, ne le racontez à personne. Gardez secret ce cadeau du ciel, car il est aussi précieux qu'un trésor. Il vous promet un destin de haut vol. Assurément, votre fortune sera grande. Vous serez élevé, pour le moins, au rang de premier ministre impérial. Je vous le garantis. Marchez donc avec confiance dans la vie qui vous est donnée. Les dieux vous accompagnent. Un grognement satisfait répondit à ces paroles, puis des tintements de pièces sur la table. Enfin, Makibito entendit les pas feutrés de la vieille femme qui reconduisait le garçon aux bottes alertes, tout rieur et reconnaissant. Quand le silence fut revenu, il sortit de sa cachette. Ah, comme j'aimerais être à la place de cet homme! Il resta songeur. Puis, pourquoi lui avez-vous dit qu'il devait garder son rêve secret? Eh, ma foi, lui dit la vieille nonne, on pourrait le lui voler et il en perdrait le bénéfice. « Ainsi, dit Makibito, tout à coup émerveillé, j'entre comme il l'a faite dans cette pièce, et si, mot pour mot, je vous raconte son rêve comme s'il était le mien, vous me promettez exactement ce que vous lui avez promis ? Oui, que pourrais-je dire d'autre ? Assurément, son destin serait, tiens, absurde, grogna Maquibito, les yeux malicieux, n'osant y croire. Ta naïveté est émouvante, dit la nonne en riant. Sors d'ici, reviens comme l'a fait ce fils de gouverneur. Parle-moi comme il m'a parlé. Écoute-moi comme il m'a écouté. Que risques-tu? Puisque je veux bien, par faiblesse pour ton aimable figure, être ta complice. Maquibito sortit, revint d'un pas ferme, répéta le récit du rêve sans rien omettre et entendit avec ravissement la vieille femme le vouer aux plus éminentes fortunes. Après quoi il lui offrit tout l'argent qu'il avait en poche et s'en alla. Quelques années plus tard, à force de sages études, il devint un homme savant. Un haut fonctionnaire de la cour le prit à son service. Il se montra dans quelques délicates missions d'intelligence si vive et de jugement si avisé que l'empereur le voulut pour conseiller. Il sut se rendre indispensable et fut en peu de temps nommé premier ministre. Il épousa la sœur d'une princesse impériale qui lui donna une abondante et noble descendance. Un jour lui vint aux oreilles que le fils du gouverneur était en quête d'une charge honorable et n'en trouvait pas. Il lui offrit un poste d'aide de camp auprès du général de sa garde. À l'instant de sa mort, qui survint dans sa 100e année, le très vénérable Maquibito, retiré dans le plus simple de ses 18 palais, se plut à raconter au plus aimé de ses petits-enfants comment, autrefois, il avait volé un rêve faste. Il finit par ces mots. Absurde, n'est-ce pas? Et il quitta la vie dans un dernier soupir, le visage illuminé par un sourire parfait. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, car sans vous la peine.